Pour comprendre et débattre, une rubrique proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on clôture notre série d'émissions sur le thème de l'éducation populaire. Alors, Paul, est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu les grandes idées que vous avez développées à cette antenne depuis une quinzaine de semaines maintenant ?
On a travaillé essentiellement à partir de l'histoire et on a essayé de regarder au cours de 2 siècles ce qu'était l'éducation populaire. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'éducation populaire, les grandes idées forces, c'est d'abord un combat. Ça a été un combat pour faire avancer les notions de justice, de liberté, d'égalité. C'est dans ce combat que l'éducation populaire s'est inscrite. Deuxième idée force, c'était l'utilisation de la raison par les hommes qui leur permettait de pouvoir vivre ensemble et faire société, et non pas obéir au catéchisme des uns et des autres. La troisième idée qu'on a vue, ça va être que l'éducation populaire, c'était une démarche, c'était une manière de faire pour réussir à comprendre, pour réussir à entreprendre, à prendre des initiatives, à inventer. Et cette démarche permettait une certaine émancipation des personnes et des groupes qui l'utilisaient. Voilà les trois grandes idées forces qu'on a vu se dégager à travers ce temps d'histoire.
Alors, on a vu aussi que les partis politiques en France ne sont pas restés indifférents par rapport à ce mouvement social.
Effectivement, une autre caractéristique de l'éducation populaire, c'est que ça s'inscrit dans l'histoire. Et on a vu que selon les moments, elle prenait des formes très très différentes liées au moment de l'histoire. Au cours du 19e siècle, elle se construit plutôt autour de l'émancipation de la classe ouvrière, en accompagnant ses luttes, en accompagnant le syndicalisme. On va voir qu'elle va accompagner le mouvement républicain et que quand la République va reconnaître l'éducation populaire, ça va avoir des incidences sur elle parce que les politiques prenant en compte l'éducation populaire vont essayer de l'utiliser, de le faire évoluer dans leur sens et que ça va changer un certain nombre de choses dans sa manière de faire. L'éducation populaire contribue à la construction de la cité, fait de la politique à côté des partis. Il y a l'idée d'une construction de la République, c'est-à-dire de la chose sociale qui parte des gens et qui ne soit pas uniquement dans les partis.
Est-ce que selon vous, les grandes idées et valeurs portées par l'éducation populaire sont des choses qui sont acquises aujourd'hui en 2007 ?
Alors, le combat pour la justice, pour la liberté, pour l'égalité, je ne pense pas qu'il soit définitivement acquis. Je pense même qu'il ne sera jamais définitivement acquis et que ce combat, il a toujours son sens. Ce qui change, c'est le moment de l'histoire. L'idée d'utiliser sa raison pour comprendre et lutter contre les dogmes, et il a toujours son sens aussi. C'est bien évident qu'actuellement, le combat de l'éducation populaire ne se situe pas du côté des républicains pour lutter contre les dogmes religieux et l'esprit du Moyen-Âge. Mais la pensée unique, c'est une nouvelle forme de dogme qui nous est enseignée tous les jours à la télévision. Et par rapport à cette vision dogmatique de la société qu'il n'y aurait qu'une manière de penser, l'utilisation de sa raison et de son esprit critique est toujours d'actualité.
Alors si l'éducation populaire est toujours d'actualité, quels sont selon vous ces grands défis aujourd'hui ?
C'est les défis pour le futur, ils se situent autour des défis pour la société. Et les trois grands défis pour la société, ça va être d'abord le défi écologique. Le modèle de développement que nous avons ne permet pas au monde de continuer de survivre. Il va falloir trouver une autre manière de produire, une autre manière d'échanger que la mondialisation qui consiste à faire venir de l'autre côté du monde les chemises qu'on pourrait fabriquer en France. Donc par rapport à ça, inventer de nouveaux modèles, il a toujours sa place. Deuxième défi de notre monde, ça va être le défi social. C'est-à-dire, pendant un temps, l'Occident s'est enrichi sur la paupérisation du tiers-monde, mais ce mécanisme-là, actuellement, est en train de se généraliser à l'échelle de la planète, et on a un phénomène de paupérisation dans les pays riches et d'enrichissement d'une élite dans les pays du tiers-monde. Là, il y aura un défi social à l'échelle de la planète. Et le troisième défi, c'est le défi démocratique, c'est-à-dire comment faire en sorte que le peuple réussisse à reprendre le pouvoir. Et on aura l'occasion, à l'occasion des débats sur les élections, de revenir sur ces éléments-là. Mais les mouvements d'éducation populaire contribuant à faire de la politique autrement ont pas mal à apprendre dans une période où il y a un passe entre la population et les partis, entre le peuple et son élite.
Paul, merci. Alors, avant de se quitter, un rendez-vous qui tombe bien, puisqu'il est complètement dans la thématique qu'on a abordée depuis quelques semaines. Donc, ça se passe à Saint-Nicolas-les-Arras, juste à côté de chez nous.
Effectivement, le jeudi 15 février, à la fois l'après-midi et à la fois en soirée, Culture et Liberté d'Arras va présenter une expo sur l'histoire, sur l'éducation populaire au Centre social Chanteclair, et l'après-midi et en soirée, il y aura des animations autour de cette exposition. Alors, vous êtes invité à y aller, ça sera un moyen de compléter l'information, peut-être de la voir d'une manière un petit peu différente, hein, d'en prendre une petite analyse critique. Deux numéros de téléphone pour joindre, soit celui du Centre social Chanteclair au 03 21 55 49 59, soit celui de Culture et Liberté au 03 21 71 03 50. Et le référent de cette action-là, c'est Martial.